Malgré le charme de Silette, la destination préférée de notre famille ne tarda pas à devenir Cox's Bazar. C'était l'unique station balnéaire du Bangladesh. À la réflexion, il était déjà extraordinaire que le pays le plus pauvre du monde en comporte une. C'est oublié que le Bengale fut un royaume richissime avant la colonisation britannique, qui se chargea de démanteler tant de prospérité. Parmi ces Anglais, un certain Cox installa ou rebaptisa, allez savoir, une villégiature au bord du golfe du Bengale. En 1978, il ne restait pour ainsi dire rien des fastes du colonisateur, si ce n'est des hôtels en ruine dont la majorité servait de dispensaire. Le moins effondré d'entre eux recevait encore les amateurs de bains de mer que nous étions. À part les notons, nous avions repéré une seule famille fidèle au Cox's Bazar Palace. Il s'agissait d'une tribu d'Anglais qui, bien que jeune, entretenait la plus arrogante des nostalgies. Ils ne quittaient jamais l'hôtel, venaient toujours prendre les repas à la table voisine de la nôtre, dans ce qui tenait lieu de restaurant, et nous regardaient avec mépris quand ils ne déclaraient pas haut et fort « Zehar is dirty as this Bengalis ». Le soir, ils dînaient en smoking et en robe longue. Notre dress code les dégoûtait. Nous ne les vîmes jamais à la plage. Nager dans le golfe du Bengale se révéla une expérience formidable. Les vagues étaient gigantesques et se succédaient à un rythme que je n'ai pas connu ailleurs. On avait le choix entre s'abandonner à elles ou plonger dessous. Si l'on voulait prendre le large, le plongeon était indispensable. Les grandes profondeurs étaient habitées par des requins, disait-on. Ce ne fut confirmé par aucune observation, mais ajouta au plaisir du bain une dimension de roulette russe. Quand je ne nageais pas, je jouais avec les enfants du peuple de la plage. Ces ramasseurs de coquillages me montraient leur butin. Ils en perçaient la nacre pour les enfiler en collier. Ils me virent jongler à 3 balles et me demandèrent de leur enseigner cet art. La misère sévissait à Cox's Bazar comme ailleurs. Étrangement, la mer adoucissait le travail de la mort. Des femmes vêtues de leur sari entraient dans l'eau avec leurs filets pour pêcher et rapportaient toujours quelques prises comestibles. Le cormoran de ce littoral, c'était moi. Je plongeais à toute occasion. Nager, c'était voler sous l'eau. Je ne rapportais pas de pêche, rien ne m'importait que la sensation d'avoir des ailes à la place des bras. Ma tête n'émergeait que pour respirer. Sinon, il y avait des mouettes. J'aimais leur façon. La femelle blottissait son crâne dans le cou de son mâle, cela signifiait « j'ai faim ». Le gentleman cherchait aussitôt de quoi nourrir madame. Au Bangladesh, la faim était la maladie la plus courante. Ne pas en souffrir faisait de nous des êtres à part. Je donnais mon goûter aux enfants de la plage qui le dévoraient en me regardant avec effroi, l'air de penser « elle n'a pas faim ». Ils ne nageaient jamais. Quand je les invitais à me suivre dans l'eau, ils déclinaient ma proposition. Il n'y avait pourtant aucun interdit à nager. Nous n'avions pas de langue en commun pour en parler. Ma grand-mère maternelle vint nous rendre visite. Il faut saluer cette aventurière. Personne n'avait envie de venir nous voir au Bangladesh. Cette femme, d'une méchanceté olympique, éprouva la curiosité de constater de ses propres yeux la pauvreté du pays. Elle ne fut pas déçue. Nous l'emmenâmes à Cox's Bazar. La présence d'une authentique sorcière sur la plage déclencha l'enthousiasme de ma tribu d'amis. Ils l'appelèrent « Buriburi », ce qui signifie « vieille vieille ». Quand elle entrait dans la mer pour nager avec énergie, les enfants hurlaient d'une épouvante joyeuse. Ils avaient l'air de se demander si nous espérions qu'elle se noie. C'était un spectacle d'assister à la sortie des eaux du débris qui revenait vers sa famille, escorté des enfants qui criaient « Buri buri !» pour l'acclamer d'avoir survécu au bain. L'aïeul rentra en Belgique enchanté d'avoir enregistré tant de misère. Quand nous retournâmes à Cox's Bazar, le peuple de la plage éclata en sanglots. Buriburi était forcément morte. Sinon, elle nous eût accompagnés. la communauté étrangère nous regardait comme des excentriques. Les autres diplomates ne quittaient pas la capitale. Ils se barricadaient contre le spectacle de la faim en restant dans leur logement de fonction. L'unique sortie consistait à se rendre au club international, centre de la vie sociale de Dhaka. Mon père disait qu'il n'avait jamais eu de poste aussi passionnant que cette jeune démocratie. Ma mère partageait sa fascination. Ma sœur et moi, nous avions honte de ne rien éprouver de positif. À 1 heure de voiture de la capitale, des religieuses belges créèrent une léproserie appelée Jal Chatra. Nos parents s'enthousiasmèrent pour le projet. Nous y allâmes 3 week-ends par mois. « Est-ce que je peux emporter Sirocco ?»«
Un canari n'a pas sa place dans une léproserie, » répondit mon père.
Jal Chatra était un antique couvent délabré en pleine jungle. Ni électricité, ni eau courante. Les lépreux y affluaient du pays entier. Dès notre arrivée, Juliette et moi comprîmes qu'il s'agissait de l'antichambre de l'enfer. Tandis que nos parents mettaient la main à la pâte en débarquant du matériel médical et en recevant des malades, nous nous éloignâmes dans la jungle. Des nuées de moustiques nous y attendaient. « Je rentre !» déclara Juliette. Rentrer suppose un chez-soi. Je voulus voir ce que ma sœur nommait ainsi. À proximité de Jal Chatra, elle s'assit sur une souche et commença à lire. Je repris, seul, mon exploration. Dans la file des lépreux, il y avait un homme qui n'avait pas de nez. À la place, un vaste trou béait. Quand il parlait, on voyait la cervelle remuer. « N'oublie pas que le langage, c'est ça, » me dis-je. Sœur Marie-Paul, 60 ans, dirigeait ce dispensaire avec énergie. Elle ne tarda pas à être assistée de 2 religieuses flamandes, sœur Lies et sœur Lene, qui n'avaient pas 30 ans et étaient obèses. Cette équipe de choc accomplissait des miracles. On dormait à Jal Chatra dans des cellules aussi exiguës qu'obscures. Les ténèbres n'empêchaient pas complètement de voir les araignées. Juliette et moi partagions la même cellule. Pour aller aux toilettes, la nuit, nous nous escortions l'une l'autre pour porter la bougie à tour de rôle. Il s'agissait de ne pas tomber dans le trou qui faisait office de lieu d'aisance. Nous regagnions ensuite notre cubicule, nous demandant de quel crime cette épreuve constituait l'expiation. Le lever du soleil était une bénédiction qui nous délivrait des pires terreurs. Sœur Marie-Paul nous gratifiait d'un « Alors les gamines, n'est-ce pas qu'on dort bien ici ?» Nous n'osions pas la détromper. Dans l'approche jungle, j'effectuais des recherches. Je savais que l'engoulevent, oreillard, nichait au sol. Armé d'un bâton, j'écartais les hautes herbes, les lianes rampantes et les branchages dans l'espoir de tomber sur mon alter ego endormi. Je rencontrais des rats, des serpents grands et inidentifiables qui approfondirent ma perplexité. Quand on a la possibilité de nidifier dans un arbre, pourquoi s'exposer au danger? La chute éventuelle des œufs me paraissait un péril moins patent que celui d'être dévoré par un boa. J'en arrivais à l'hypothèse de la paresse. Construire un nid en altitude nécessitait une énergie certaine. Cela me déplaisait. Un oiseau de si mauvaise humeur devait avoir des exigences plus fortes que la flemme. Je répugnais à lui attribuer le goût de la loi du moindre effort. Puis me vint une nouvelle idée. Nicher au sol, c'était la meilleure cachette. L'engoulevent était un expert du camouflage. La couleur de son plumage le rendait invisible. Si je ne l'avais pas vu, cela prouvait qu'il était là. À la tombée du soir, je vis voler plusieurs engoulevents oreillards. Il y avait de la parade nuptiale dans l'air, les mâles claquaient des ailes. Cela ne me consola pas, cela me sauva. Quand on se sent incapable d'une pensée digne de ce nom, il reste l'observation. Voici ce que m'apprit l'amour des oiseaux. Si j'avais eu une passion pour les poissons, les serpents ou les tigres, je serais devenue une personne très différente. Quel que soit le lieu, la saison ou l'heure, on peut voir un oiseau sur cette planète.
Même en plein océan, on peut assister au spectacle d'une migration de sternes arctiques. La mouravière incite à être continuellement aux aguets. L'alerte est toujours de mise. Un amour qui se vit par l'observation, a fortiori par l'observation d'une espèce à ce point mobile, influe sur le caractère. La contemplation perpétuelle d'un être furtif m'enseigna l'art d'aimer l'insaisissable. On s'étonne de la fidélité amoureuse des oiseaux. Elle est pourtant très naturelle chez les individus à qui la notion de possession est étrangère. Sœur Marie-Paul s'évertuait à paraître nous aimer, Juliette et moi. Elle devait mal comprendre que des gens aussi formidables que nos parents aient engendré des gamines à ce point étrangères à la compassion. Quand elle nous proposait d'aider à soigner les lépreux, nous lui répondions sans vergogne que nous devions réviser nos déclinaisons latines. « N'avait pas l'air pourtant de réviser beaucoup, » disait-elle. « C'est tout intérieur, » répondait Juliette d'une voix blanche. La vieille religieuse me surprit en train d'aplatir les hautes herbes avec mon bâton. Je psalmodiais aussitôt « Rosa, Rosa, Rosam ». Nous la détestions. Mais nous avions une certaine tendresse pour les jeunes religieuses obèses qui, elles, nous adressaient de bons sourires.